Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'épisode consacré aux questions posées par le patient partenaire. Le monde de la santé a longtemps validé l'idée d'une situation centrale des soignants, notamment parce qu'ils étaient réputés être les seuls à pouvoir comprendre ce dont un patient avait besoin. Ce présupposé instaure une relation de pouvoir entre le soignant et le soigné que la notion de patient partenaire vient bousculer. Le patient partenaire n'est plus seulement l'objet passif des soins, mais il devient un acteur central et l'auteur de son propre parcours de santé. En vivant au quotidien avec une maladie chronique, ce patient développe au fil du temps une connaissance intime et experte de sa pathologie et de ses traitements, une expertise qu'il peut partager pour enrichir l'approche des soignants et aider les autres patients à mieux vivre malade. Ce rôle du patient partenaire dépasse la simple notion de développer un savoir personnel. Il s'inscrit dans une logique de communauté en santé, où chaque individu, en fonction de son expérience, peut jouer un rôle fondamental dans l'accompagnement des autres. Cette approche modifie qualitativement les rapports dans le milieu de la santé. Elle transforme les soins médicaux en une relation d'échange, de collaboration et de réciprocité, en permettant aux patients de prendre part activement à la prise de décision. La santé est donc améliorée. Elle devient plus inclusive et plus respectueuse et plus humaine. Comment cette nouvelle forme de collaboration se construit, quel impact elle peut avoir sur les soins de santé et comment elle interroge nos pratiques, nos politiques de santé et notre vision de la place du patient dans une société. Qui mieux que ceux qui vivent au quotidien avec la maladie pour faire entendre leur voix et contribuer à une transformation collective des pratiques médicales. Alors comment un patient, en partageant son savoir expérientiel, peut-il changer la manière dont les soins sont perçus et dispensés? Quels sont les enjeux politiques de cette évolution et jusqu'où peut-on aller dans la co-construction des soins entre professionnels et patients? Ce sont les questions que nous aborderons aujourd'hui. Dans cette deuxième partie, je poursuis la discussion avec mes invités. Julie Abal.
Bonjour. Je suis Julie Abal, je suis pédiatre dans le service de réanimation et médecine néonatale du CHU de Toulouse. Et je suis également pédiatre au sein des centres de compétences maladies rares qui prennent en charge les enfants porteurs de malformations faciales au CHU de Toulouse.
Fabienne Ragingir.
Je suis patiente partenaire, cofondatrice de l'association Savoir Patient et chargée de projet au Centre opérationnel du partenariat en santé, également membre du Conseil pour l'engagement des usagers de la Haute Autorité de Santé et des conseils d'administration de l'Association des diabétiques et de France Asso Santé d'Occitanie.
Et Patrick Lartiguet.
Bonjour, je suis enseignant-chercheur, maître de conférences associé en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Et mes objets de recherche sont particulièrement centrés sur le partenariat en santé.
Merci à tous les trois.
Merci. Merci.
Je voulais vous interroger, Fabienne, sur la place du patient partenaire dans sa reconnaissance. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une sorte de professionnalisation de cette place dans les établissements?
Alors, à propos de la professionnalisation des patients partenaires, c'est un débat un peu social et théorique. Tout le monde n'y attribue pas la même signification. Donc, je pense important de souligner que professionnalisation n'est pas synonyme de rémunération, mais que c'est un sujet beaucoup plus large. Je reprends les propos de Bourdon qui explique qu'il y a 5 dimensions dans le processus de professionnalisation. La professionnalisation du groupe, donc un statut social qui est visible par le biais d'une association professionnelle. Pour institutionnaliser une profession, il faut une communauté de pairs qui vont construire leurs propres règles. Il y a une professionnalisation des savoirs spécifiques traduits en compétences. Donc, le système de santé a des facettes diverses, l'éducation thérapeutique, la qualité, les soins, la formation. Et ce n'est pas parce qu'on est un patient qu'on va savoir tout faire. Il est important d'adapter les profils et les compétences au projet. Voilà, par exemple, témoigner de son expérience de vie ou l'utiliser ainsi que celle de ses pairs pour construire un programme d'éducation thérapeutique ou une session pédagogique, ça ne nécessite pas les mêmes savoirs que de participer à des protocoles de recherche. Donc c'est pour ça que les savoirs spécifiques font qu'il est important d'avoir les bonnes personnes au bon endroit pour la bonne mission bien définie, éviter le phénomène du patient alibi.
Ma question, en fait, elle porte sur la reconnaissance de ce rôle. Comment, finalement, un patient traditionnel devient patient partenaire? Est-ce que ça se formalise d'une manière ou d'une autre, ou c'est par l'engagement peut-être associatif?
Alors, les patients partenaires sont des patients comme les autres aussi, et tout le monde peut devenir déjà patient partenaire de ses propres soins ou patient partenaire au niveau collectif engagé dans le système de santé. Du coup, je pense que la reconnaissance se fait par le constat d'une prise de recul et la capacité à se positionner par rapport à ses pairs dans une posture d'écoute, d'accompagnement et de développement de pouvoir d'agir, et dans une posture constructive auprès des professionnels pour pouvoir contribuer à leur pratique. Donc, quand on parle de reconnaissance dans le milieu médical, là, on va peut-être aborder la question de la formation ou la question des compétences. Donc, le système français est très élitiste. Moi, personnellement, je pense que des compétences peuvent se développer ailleurs que dans la formation, même si la formation peut bien sûr aider à développer des compétences. Donc, c'est pas 0 ou 1, c'est tout un processus aussi qui fait que les patients peuvent devenir des partenaires du système de santé.
Vous voulez dire qu'il y a des formations spécifiques aux personnes qui veulent rentrer dans le partenariat ?
Alors oui, il y a des formations autour du partenariat en santé qui s'adressent aux patients, mais pas que, et aussi aux professionnels de santé, parce que parfois on peut avoir l'impression qu'il y a plus de patients partenaires que de professionnels de santé partenaires. Donc c'est l'acquisition des compétences qui permettent de relationner, de travailler ensemble en reconnaissant, s'appuyant sur la reconnaissance des savoirs. Donc il y a des formations universitaires. On parle souvent de l'université des patients, mais sachez qu'il y a une majorité de professionnels de santé qui vont se former à l'université des patients.
Fabienne fait référence à la première université des patients, Pierre de la Sorbonne, chez Pierre et Marie Curie, où c'est Catherine Tourette-Turgis qui, pour la première fois il y a 15 ans maintenant, a ouvert ce qu'elle a appelé l'université des patients, qui est composée de majoritairement de professionnels de santé et qui a fait des petits, puisque dans pas mal de régions françaises, vous avez des universités du patient, et vous avez maintenant même des DU, diplômes universitaires du partenariat. Vous en avez un à Montpellier, à Nantes, à Paris. Donc effectivement, vous avez des formations au partenariat qui existent.
D'accord.
Également dans des organismes de formation. Par exemple, l'association Savoir Patient propose des formations actions au partenariat qui sont prises en charge par l'ANFH, donc pour les personnels hospitaliers.
Je rejoins ce que vous dites et ce que je voulais préciser, c'est que effectivement la formation n'est pas garante du partenariat, et le partenariat peut se faire indépendamment de la formation. C'est une manière de travailler qui peut se faire à des degrés différents selon le partenaire avec qui on travaille, mais le partenariat, j'allais dire parent partenaire ou patient partenaire, oui, il peut se faire avec n'importe qui à n'importe quel moment du soin. Je l'expérimente donc avec Delphine Vissac lors des consultations, qui a elle-même une formation particulière et un statut particulier lors de consultations. Mais je l'expérimente aussi dans le service de néonatologie au quotidien, sans que ce soit formalisé, dans la relation avec les parents, dans les échanges qu'on peut avoir au quotidien, dans la prise en compte de leur regard sur l'état de santé de leur enfant. Ouais. Et on construit ensemble le parcours, le projet de soins de leur enfant. Ils sont intégrés dans les soins. Il y a des soins que seuls les parents font dans le service. Il y a une continuité. Indépendamment de la formation théorique. Mais c'est vrai que, comme ça avait été évoqué au départ, il y a cet échange au niveau individuel, mais le reste doit se mettre en marche pour le soutenir, la formation et tout ce qu'on a évoqué. En néonatologie, par exemple, une des recommandations à l'heure actuelle dans la prise en soin, il y a la visite centrée sur la famille. C'est un principe de visite qui se fait dans le service, la visite médicale, où les parents sont présents, les différents intervenants du service sont présents. Et chaque situation est exposée et chaque participant va donner son regard sur la situation médicale et la prescription se fait tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, les parents en font partie. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place en pratique. En théorie, comme ça semble simple. En vrai, c'est compliqué pour des raisons architecturales, pour des raisons de confidentialité, de formation, de disponibilité des professionnels et des parents au moment où c'est le moment de faire la visite. Mais en tout cas, ça fait partie des recommandations en néonatologie. Et je pense qu'on va y arriver petit à petit.
Vous évoquez plusieurs types de freins dans la pratique, mais vous ne parlez pas de l'établissement. Parce que ce que je comprends, c'est que c'est quand même une manière de penser le soin, le partenariat santé. C'est beaucoup plus global que dire on va collaborer avec une personne en particulier. Il y a dans votre discours une manière de donner une place soit aux parents de patients, soit aux patients eux-mêmes s'ils peuvent le faire. Mais qu'en est-il de la position des établissements aujourd'hui sur ces questions ?
On parle de l'éthique du soin. Et donc, c'est pas une checklist à cocher pour dire je suis dans le partenariat ou pas.
Oui.
C'est la manière d'être dans le soin. Et on entend dans les propos du docteur Abal une manière d'être. Et ça, voilà. On est aussi dans une culture du soin qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, est une culture qui a été organisée. C'est Le Breton qui parle d'une culture organiciste, centrée sur les organes, pas forcément centrée sur les personnes. Et tout notre système de santé est pensé sur le modèle de l'aigu. Donc avec cette notion de il y a des symptômes, je diagnostique, je prescris et le patient est observant. Le choix des mots est quand même important, c'est une terminologie religieuse, hein, parce que qui proclame des ordonnances, c'est quand même le pape. Hein. Et ça c'est un auteur, Philippe Barrier, qui a été regardé du côté de la sémantique des mots médicaux, qui sont beaucoup du champ religieux. Mais ça c'est une parenthèse, tout ça pour dire que c'est ça la révolution culturelle aussi.
Oui.
Et donc maintenant, pour revenir à la question, Flora, sur les établissements, vous avez raison, c'est que c'est très difficile pour les équipes s'il n'y a pas de volonté institutionnelle de l'établissement. Alors, volonté institutionnelle, aujourd'hui, elle apparaît dans la stratégie nationale de santé, dans les projets régionaux de santé des ARS, dans à la Haute Autorité de Santé. Madame Raguinger a parlé de son engagement au Conseil de l'engagement. On va dire qu'au niveau national, il y a un vrai mouvement de fond pour parler du partenariat. Il y a des choses qui sont très concrètes, qui forcent un peu la main des établissements. C'est ce qu'on appelle les certifications. Tout établissement sanitaire est soumis à la certification dite HAS, tous les 4 ans, qui a des critères impératifs. Et la nouvelle certification, qui va être opérationnelle au mois de septembre, donc 2025, a des critères impératifs, a des critères sur l'expérience patient et la notion de partenariat. Ça veut dire que, en termes de gestion qualité, l'établissement est quelque part obligé d'aller et de tendre vers le partenariat. Si on regarde pour les établissements médico-sociaux, parce que, comme l'a dit Madame Raguinger, c'est pas que le sanitaire.
Oui.
Vous avez, alors là on ne parle pas de certification HAS, on parle d'évaluation externe, et là aussi, vous avez des indicateurs qui concernent la place du patient. Donc on va dire que les établissements bah, ils y sont un petit peu poussés. Mmh. Et puis, vous avez des établissements. Moi, je sais que Savoir Patient accompagne notamment l'APHP, le CHU de Nîmes, le CHU de Montpellier, le Centre opérationnel du partenariat en santé, donc le COPS, dispositif porté par Savoir Patient, accompagne les établissements à implémenter le partenariat au sein d'un service, au sein de l'établissement, au sein d'une gouvernance, etc., etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les établissements, de plus en plus, j'ai envie de dire, sont concernés par cette idée du partenariat. Mmh. Et ça veut dire également à mettre en œuvre institutionnellement une petite, voire une grosse révolution au sein même de leur établissement.
Le fait que ça rentre dans des critères de qualité, d'évaluation, c'est quand même un signe important, oui, de l'évolution.
Donc on l'a dit tout à l'heure, le partenariat, c'est récent, hein, ouais. Avec notamment le modèle de Montréal il y a une dizaine d'années. Moi, je trouve que ça va très, très vite.
Et alors, je me tourne vers vous, Fabienne, pour savoir, vous, comment vous intervenez dans les établissements de santé ou auprès des patients. Est-ce que vous êtes au contact des patients? Est-ce que tout se joue dans la réunion avec les soignants, un peu une réunion où je ne sais pas si les patients peuvent participer eux-mêmes, mais où vous représentez peut-être la voix des patients. Comment ça se passe pour vous, une intervention?
Alors, à ce jour, à titre personnel, moi, j'interviens plutôt au niveau des équipes ou des organisations dans le cadre du Centre opérationnel du partenariat en santé. Par exemple, l'appui du service du docteur Abal a été le premier appui du COPS.
D'accord.
Ou individuellement au niveau des patients qui souhaitent s'engager dans le système de santé sous forme de tutorat.
D'accord.
Des exemples de patients partenaires dans les services. L'exemple qui a été donné par le docteur Abal était vraiment très concret et parlant. Je peux vous donner un autre exemple en éducation thérapeutique du patient. Par exemple, concevoir un atelier « Mon diabète de retour à la maison ». Un patient partenaire ou des patients partenaires co-conçoivent l'atelier, quels objectifs on vise, quelles techniques d'animation on utilise.
D'accord.
Ensuite, ils peuvent l'animer ou le co-animer et enfin débriefer avec l'équipe. Donc, ils sont vraiment là en lien direct avec les patients, un groupe de patients, et en lien avec l'équipe pour la préparation et le débriefing. Je voulais vous donner aussi un autre exemple dans les soins, par exemple avec les patients accompagnants en cancérologie.
Oui.
À l'Institut du cancer de Montpellier, à l'ICM, qui est membre du comité des partenaires du COPS. Du coup, je les ai entendus l'autre jour à Radio France et je me suis dit ça pourrait être intéressant de partager ça aujourd'hui. Donc une fiche de poste patient partenaire accompagnant. Donc là, ce sont des patients partenaires professionnalisés et les missions sont ainsi décrites en lien direct avec la direction des soins et supervisées par un patient partenaire coordinateur. Les missions sont de accompagner les patients et leurs proches dans leur parcours de vie pendant le traitement, établir un soutien relationnel et au rétablissement en créant un espace favorable à l'expression du vécu avec la maladie, contribuer au soutien des aidants, accompagner le patient à être acteur de sa prise en soins en favorisant le partenariat de soins, favoriser la compréhension en reformulant et en adaptant le vocabulaire médical, favoriser l'orientation des personnes dans le système de santé, dans leur territoire, en les informant, en relais de l'équipe de soins sur les services existants, agir en étroite collaboration avec l'équipe de soins, promouvoir le partenariat de soins dans la culture professionnelle soignante, faire bénéficier les soignants de ces savoirs expérientiels pour contribuer à l'amélioration des parcours.
Donc
sur le terrain,
c'est
beaucoup de choses, c'est divers, c'est de l'échange, de la mise en réseau, du parler avec les patients, avec les proches aidants, avec les professionnels, en apportant ce lien et ces savoirs expérientiels et en faisant sens en redonnant du sens à tous dans l'expérience de la maladie.
C'est comme un facilitant à toutes les étapes de la relation, finalement, qui vont tourner autour du patient, quoi.
On pourrait dire un facilitateur de parcours de vie, d'ailleurs. Je crois que c'est un terme qui est utilisé dans le social ou le médico-social.
D'accord.
Voire même en psychiatrie, le terme utilisé, c'est médiateur santé père. Et vous avez des postes, là, ici à Toulouse, à l'hôpital Marchand, vous avez des patients professionnalisés qui sont médiateurs santé père et qui sont intégrés aux équipes de soins.
Donc, il peut y avoir cette institutionnalisation, en fait, de ce rôle Et je me demandais, bon, il y a un modèle ancien qui a persisté pendant très très longtemps, c'est celui du soignant qui sait, hein, et c'est-à-dire du soignant qui dispose des connaissances que le patient ne peut pas avoir ou qu'il observe de l'extérieur sans s'interroger sur son ressenti. C'est un modèle lié, très étroitement lié au paternalisme en santé. Le soignant sait mieux et le patient n'est pas vraiment capable de penser ce qui lui arrive. Ce modèle, bien sûr, il est daté aujourd'hui, on l'entend quand on vous écoute parler. Et la pratique a beaucoup évolué, mais je me demandais ce qu'il en était de Julie, votre expérience dans la formation médicale. Est-ce que c'est cette place du patient, cette manière d'écouter, de se mettre à l'écoute en fait du vécu du patient, est-ce que c'est quelque chose qui était ou pas présent dans votre formation ?
J'en ai pas le souvenir en tout cas. En tout cas, pas de cette manière-là, pas dans le partenariat.
Oui, en tout cas, pas dans ces termes. Et quand vous êtes entrée dans votre premier poste, en fait, est-ce que vous aviez à l'esprit la possibilité de d'intégrer dans le soin cette notion de écoute du ressenti des patients ? Est-ce que pour vous, c'était une évidence ou est-ce que c'est venu par
la suite ?
Alors,
au cours de ma formation théorique, j'ai pas le souvenir que ce genre de problématique ait été abordée, mais peut-être que j'ai raté quelque chose. Et puis après, on a toute une phase de stage hospitalier. Oui. Et je crois que c'est un moment où ça nous permet de nous identifier à des professionnels de santé et à la manière dont on aimerait exercer la médecine. Ça nous confronte à des situations positives ou négatives, en tout cas de ce point de vue-là, et d'apprendre de toutes ces situations à tenir compte du patient, à échanger avec lui, à savoir de quelle manière on veut exercer notre métier.
Mais ça, c'était votre tendance à vous ? Ou est-ce que c'était dans les attendus d'un stage, par exemple ?
C'était pas, en tout cas, dans la checklist à cocher à la fin du stage pour savoir si on avait réussi le stage ou pas. Mm-hmm. Mais forcément, quand on est confronté à des situations humaines, on apprend. Et je crois que ça se fait petit à petit quand on est confronté à ce genre de situation. En tout cas, il y a des situations où on se dit j'aurais été le médecin, j'aurais peut-être pas réagi comme ça. En tout cas, je souhaite pas faire ce type de prise en charge. Donc ça, je dirais qu'il y a un continuum sur notre formation pratique qui nous aide à orienter la façon dont on a envie d'exercer. Mm-hmm. Et puis, il y a eu plusieurs moments clés dans mon parcours professionnel. Il y a la première fois que j'ai mis les pieds en pédiatrie. Oui. J'ai senti une ambiance différente. Beaucoup d'agitation avec des enfants qui courent partout, qui se permettent d'interpeller de la même manière tous les gens qui sont présents dans le service, qui posent des questions très spontanées, très naïves, mais qui obligent le professionnel à se mettre à la portée de tout le monde, à avoir un langage simple et à mettre en quelque sorte tout le monde au même niveau. Mm-hmm. Donc déjà, c'est quelque chose qui m'a marqué, que j'ai trouvé chouette. Puis, j'ai fait mon premier stage en néonatologie. Dès le départ, c'était une philosophie de soins, l'implication des parents dans les démarches de prise en charge, dans les décisions, dans les soins en eux-mêmes. C'est quelque chose qui était ancré dès que j'ai mis les pieds dans ce service. J'ai pas connu la phase avant où les services étaient fermés, par exemple, et oui, les parents ne venaient que l'après-midi de telle heure à telle heure quand il n'y avait aucun soin et qu'ils allaient rencontrer aucun professionnel. Moi, j'ai toujours connu le service ouvert 24 heures sur 24 et la présence des parents qui était appréciée des soignants.
Donc, c'est peut-être une culture propre aussi à ce milieu pédiatrique
En tout cas, dans mon expérience personnelle et professionnelle, ça a été ça. Ça a été ce milieu particulier que j'ai particulièrement apprécié. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux maladies rares, j'ai été confrontée à cette difficulté qui est le peu de connaissances théoriques sur ce type de pathologie, le peu de formation que j'avais pu avoir au cours de mes études sur ce type de pathologie. Et j'ai assisté à un congrès où Delphine Vissac, donc patiente partenaire ou parent partenaire avec qui je travaille en consultation, a fait une présentation. Et j'ai eu une espèce de flash où je me suis dit, mais voilà ce qui me manque pour la prise en charge des patients que je suis lors de ces consultations. J'ai retrouvé quelque chose que je connaissais en néonatologie. Et en plus, je me suis dit, mais elle sait tellement de choses que je ne sais pas sur ce type de pathologie. Donc j'ai pris contact avec elle. Et je pense que rapidement, on a senti qu'il y avait une espèce de connexion qui faisait qu'on arrivait à travailler ensemble assez facilement et à partager nos connaissances. Parce que finalement, tout le monde a le même objectif, c'est optimiser la prise en charge des patients. Ça a été, c'est vrai que ça a été un moment clé pour moi dans le partenariat.
Ça vous a fait évoluer, en tout cas, professionnellement.
Ça m'a fait évoluer, et puis c'est quelque chose que je n'avais jamais pensé jusque-là en ces termes-là. Le terme de partenariat en santé, ce n'était pas forcément quelque chose que j'avais intégré. Je le faisais à un degré moins important en néonatologie, mais je le faisais déjà un peu. Et là, ça a été quand même un moment clé dans mon parcours professionnel.
Merci beaucoup Fabienne Raguinger, Patrick Lartiguet et Julie Abal. Nous nous retrouvons dans une troisième partie pour poursuivre ces échanges. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.